On parle beaucoup de relations toxiques, on peut décrire ce que c'est et on peut même reconnaître quand un de nos proches ou une de nos proches est victime de ce type de relation. Et l'une des premières recommandations qu'on formule dans ce genre de cas, c'est de demander à la personne de mettre fin à cette relation-là, parce que c'est logique, c'est naturel, c'est normal. Mais s'il y a une chose qui est très difficile, c'est quand nous-mêmes, on est dans ce type de situation et qu'il faille mettre fin à une relation toxique. Mon nom est Sebe Foun, Life and Leadership Coach, et l'une de mes missions, c'est justement de t'apprendre, te donner les outils pour te sortir des relations toxiques. Aujourd'hui, on va parler de Lola. Lola qui est un prénom d'emprunt parce que la jeune dame m'a demandé de ne pas utiliser son vrai prénom. Lola m'a envoyé un mail à mon adresse c.befoun@gmail.com. Si tu veux m'envoyer un mail toi aussi pour me poser une question, n'hésite pas. Donc je disais, Lola m'a envoyé un mail pour me parler d'une situation dans laquelle elle est. Elle a une amitié qui était relativement positive au départ. Cette amie l'a beaucoup aidée dans des moments difficiles. Et aujourd'hui, cette amie surfe sur cette gratitude que Lola a pour en faire une servante. Et Lola ne sait pas comment mettre fin à l'amitié en raison de sa grande loyauté et sa grande gratitude justement envers cette amie-là. Je te lis son mail. Comment se faire respecter et poser des limites, même aux gens qu'on aime? Une question me revient sans cesse, mais je n'osais pas la poser car je culpabilisais rien qu'en y pensant jusqu'à aujourd'hui. Je me suis levée ce matin en sursaut à cause d'un appel d'une amie à moi qui est aussi ma patronne. Encore une fois, elle avait une urgence. Il était 6h20 sur mon téléphone avec la mention de 4 appels manqués. Elle avait un devis à faire. Plutôt simple d'ailleurs, mais là n'est pas la question. J'ouvrais à peine les yeux que je devais déjà être sur mon ordinateur. J'ai mal au crâne. Ce réveil brusque m'a donné la migraine, mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que je lui ai dit maintes et maintes fois que cette façon de travailler ne me convenait pas. À plusieurs reprises, on en a discuté et elle m'a à plusieurs reprises assuré que cela ne se reproduirait pas. Et pourtant, on en est là. Pour elle, je ne comprends pas que dans la vie, il y aura toujours des urgences et elle m'impose cette réalité. Sauf que non, je sais parfaitement qu'il y aura des urgences dans la vie, mais pas tous les jours quand même. Dans sa logique à elle, ce qu'elle fait avec moi, je veux dire ses abus constants, tant de pouvoir que de notre amitié, est un moyen de m'aider à faire face au vrai monde. Elle m'a beaucoup aidé dans la vie, alors je n'osais rien lui reprocher. Mais je crois bien que je ne veux plus de son aide. J'ai parfois l'impression qu'elle veut m'éduquer selon ses principes et ses convictions à elle. Je me sens plus à l'aise de lui parler de certains sujets. Et on a que j'ai déjà décidé de ne plus jamais aborder avec elle, car j'ai l'impression que toutes ces informations sur ma personne m'infantilisent à ses yeux plus qu'autre chose. Il lui donne un certain pouvoir sur moi. J'ai besoin d'une amie qui me conseille et qui s'arrête là. Pas d'une mère qui veut à tout prix m'imposer sa manière de voir la vie. J'en ai marre qu'elle se sente à l'aise d'outrepasser ainsi mes limites. Avec elle, j'ai l'impression que mes valeurs ne sont pas bonnes, que je devais vivre comme elle, que ce sont ses principes les meilleurs et que les miens doivent être revus encore et toujours. J'en ai marre. Je l'aime, je sais qu'elle ne me veut aucun mal, mais j'en ai marre de son comportement. Je voudrais démissionner, mais j'ai trop besoin de cet argent pour y renoncer. En même temps, si je reste là, j'ai l'impression que notre relation va en pâtir à coup sûr. Je ne sais pas comment me faire respecter tout en protégeant notre relation. Il y a énormément de choses à unpack du mail de Lola. Et la première chose à unpack, c'est la confusion entre la relation amitié et travail. L'amie était une amie qui déjà avait un grand poids dans la vie de Lola parce qu'elle a beaucoup aidé et elle avait un ascendant sur elle. En plus, elle devient sa patronne. Donc, elle a un double ascendant sur Lola. Elle a un ascendant sur la manière dont elle vit sa vie personnelle. Elle a un ascendant sur son gagne-pain. Si Lola ne réagit pas comme elle le veut, elle peut ne plus gagner sa vie. Je vais vous lire une partie de ma réponse au mail de Lola, parce que quand elle m'a écrit, je lui ai répondu. Donc, je vous lirai parfois quelques extraits de mes réponses par rapport au sujet ou alors par rapport au point qu'on abordera. Selon ce que je lis, l'amie est certainement devenue patronne après que la relation d'amitié ait été créée. Lorsque l'opportunité de travailler ensemble s'est présentée, est-ce que vous êtes posées toutes les deux pour compartimenter? Je suis certaine que vos discussions de travail et d'amitié se passent sur le même canal, ce qui serait une erreur, parce qu'il n'y a pas de différence entre les discussions de travail et celles amicales. Donc, il n'y a aucune limite, raison pour laquelle tu te réveilles stressée aux aurores. Le canal de discussion de travail se consulte aux heures de travail et le canal de discussion amicale qui n'inclut pas le travail se consulte quand on veut. Voici la réponse de Lola. Elle m'a confirmé qu'aucune séparation n'a été faite. Leur amitié date de l'université et c'est après que son ami devenu entrepreneur lui a proposé un poste par faveur, donc c'était encore pour l'aider. Elle explique avoir refusé d'abord, puis elles ont fini par collaborer. C'est en rédigeant un plan d'affaires ensemble qu'elle a découvert le manque de structure, du moins qu'elle a réalisé le manque de structure dans l'entreprise. Elle a commencé à aider gratuitement avant de proposer ses services comme contre rémunération. Et elle souligne qu'elle voulait que cette collaboration soit temporaire pour préserver leur amitié. This is a lot. L'ami n'a pas embauché Lola pour ses compétences, ses connaissances, mais par faveur. Et quand quelque chose t'est donné par faveur, c'est-à-dire qu'on te fait une faveur, on veut t'aider, ça signifie qu'en réalité, on t'a déjà dit que tu n'en vaux pas la peine. On t'a déjà fait comprendre que ce n'est pas ta place, que tu ne le mérites pas. Mais grâce à moi, tu as un boulot. Je veux t'aider. C'est-à-dire que leur dynamique est très toxique. Elle a la main tendue et Lola ne fait que recevoir. Et comme on dit souvent, la main qui reçoit est toujours en bas. Tu ne peux pas prendre en étant en haut, ce n'est pas possible. La main qui reçoit est tendue vers le bas et on te donne du haut. C'est vraiment ça. C'est vraiment la parfaite illustration. Lola est inférieure à son amie, quelle que soit leur sphère d'interaction. Le deuxième point, c'est la définition floue de l'urgence. Parce que si on comprend bien, l'ami patronne justifie ses demandes incessantes et très matinales par des urgences. Ma réponse à Lola était la suivante. Qu'est-ce qu'une urgence dans votre contexte de travail? L'avez-vous définie? Si l'urgence repose sur le fait que quelqu'un s'y prend tard, alors ce n'est pas une urgence, c'est le rattrapage d'un manquement. Et donc, sa réponse à elle, c'est, elle mentionne que la charge de travail dans l'entreprise est souvent improvisée, ce qui confirme indirectement l'absence de définition claire de ce qu'est une urgence. C'est-à-dire, l'ami, je ne la connais pas. Je me fie à ce qui m'est dit. Si une entreprise fonctionne à l'idée, ce n'est pas une entreprise qui peut marcher. Donc, même quand elle dit « mon ami entrepreneur m'embauche », elle n'est pas embauchée dans une structure structurée. On va dire ça comme ça. En fait, elle vit selon les caprices de la personne qu'elle entreprise. Parce qu'il n'y a aucun plan défini, il n'y a aucune vision. On se réveille le matin en se disant « oh, je peux faire ceci ou cela, Lola, fais-moi ça. Oh, ce serait plutôt cool de faire ça, Lola, fais-moi ça. » Si l'entreprise dépend de l'humeur, des idées ou des caprices de la boss, ce n'est pas une entreprise. À la limite, c'est un pet project, c'est-à-dire qu'un projet que tu lances comme ça pour t'occuper, mais ce n'est pas une entreprise. Et Lola est la parfaite employée, entre guillemets, parce que employée, c'est pour dire, employée dans ce cas-là, parce que Lola est sa servante, selon la manière dont leur relation est structurée. Donc, elle ne peut pas embaucher une personne qui a un background dans des entreprises cadrées et lui faire ça. Ce n'est pas possible. Lola a été embauchée quand elle est sortie de l'université. Donc, elle n'a absolument aucune expérience de la vie en entreprise. Elle a l'avantage quand même de comprendre ce que c'est qu'une structure, raison pour laquelle elle arrive à dire « doesn't make sense ». Mais que peut-elle faire? Parce que l'autre est la boss. Non seulement elle est la boss, mais elle a la relation de gratitude. I cannot say no, parce que dire non, c'est lui montrer que je ne suis pas loyale, que je ne suis pas reconnaissante, c'est le mot. Je ne suis pas reconnaissante pour tout ce qu'elle a eu à me donner ou à faire pour moi. Outre cette gestion de l'urgence, on a le troisième point qui est la normalisation de l'urgence. Cette patronne-là considère que les urgences sont normales dans une vie professionnelle. Ce n'est pas vrai. Je tiens à noter que la patronne aussi n'a pas d'expérience professionnelle parce qu'elle sort de l'université. That one, we need to talk about that. Et donc, je dis à Lola, ce travail n'est pas ta vie, c'est un boulot. Un boulot qui ne fonctionne que sur des urgences est un boulot mal géré. Pour être juste, je dois dire que l'amie de Lola n'est pas aussi incompétente dans son travail parce qu'elle sort de l'université. Ce n'est pas forcément vrai. Parce que j'ai eu à travailler dans des endroits où mes supérieurs étaient très expérimentés. Mais c'était des leaders tellement mauvais qu'ils se comportaient comme elles. Ce n'est pas seulement une question de compétence, c'est aussi une question de caractère. De qui est la personne, de comment elle se comporte en société. Parce que ça transparaît dans le travail. Donc, dire que c'est parce qu'elle sort de l'université qu'elle a ce comportement-là, I'm not sure. C'est juste en droite ligne avec qui elle est, tout simplement. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'un travail mal organisé envahit toute ta vie. Lola se couche avec son téléphone, ne rêve que de son téléphone, se réveille avec son téléphone et ne fait rien d'autre que travailler. Parce que finalement, elle n'a pas d'horaire. Elle n'a pas d'horaire, elle travaille tout le temps, selon les caprices, les désirs de sa boss. Au final, elle ne travaille plus pour vivre, elle vit pour travailler. Quand tout devient urgent, ça signifie qu'en fait, plus rien n'est urgent. C'est juste le mode de fonctionnement, c'est le lifestyle. Et Lola doit comprendre que ce n'est pas à elle d'endosser le poids de cette désorganisation. C'est à la boss de créer une structure claire pour son entreprise pour que les employés puissent travailler sereinement. Ce n'est pas à l'employé de faciliter la vie à la boss. C'est à la boss de créer le cadre qu'il faut pour que l'employé puisse délivrer les résultats qu'elle souhaite. This is how it works. This is how to be a good leader. Le quatrième point, c'est le canal de communication. Les appels professionnels sont sur son téléphone personnel. That one is a big mistake. Même si tu es à ton propre compte, je te recommande vivement d'avoir deux téléphones. Sinon, tu ne décroches jamais du travail. Tu dois avoir deux téléphones, un numéro professionnel et un numéro personnel. Et même les personnes qui sont dans ton entourage, tes amis ou whatever, si elles veulent te solliciter sur une question professionnelle, elles doivent t'écrire sur ton numéro professionnel que tu consulteras aux horaires de travail, parce que là, tu es plus à même de rentrer dans ce mode-là et de répondre sereinement. Sinon, tu es en train de dîner avec ton enfant ou avec ton compagnon, je ne sais pas, et puis une sollicitation arrive. Parce que c'est ton téléphone personnel, tu vas répondre naturellement. Tu vas te retrouver en train de travailler pendant le dîner en te convainquant que non, c'est ma cousine, ce n'est pas grave, c'est juste une discussion. Non. Il faut faire une claire séparation entre ta vie pro et ta vie perso. Sinon, tu ne t'en sortiras pas. Et c'est comme ça qu'on fait des burn-out. Cette histoire où on est hyper connecté et accessible tout le temps, c'est une richesse. Mais si on ne sait pas la domestiquer, on ne s'en sortira pas. Il faut que tu puisses définir clairement quand tu travailles et quand tu ne travailles pas. Sinon, soit tu ne travailleras jamais, soit tu ne cesseras jamais de travailler. And this is a problem, quelle que soit l'option. On est d'accord. Ok. Donc, j'ai demandé à Lola si c'était son téléphone personnel qui recevait les appels et elle a dit oui. Big problem. Ensuite, elle dit qu'elles avaient essayé de poser une frontière entre le vous professionnel et le tu amical, mais ça a très vite disparu parce que quand l'ami voulait lui faire des choses qu'elle ne voulait pas, elle utilisait le tu pour jouer sur les émotions. Et ça, j'en ai souvent parlé. Nous sommes une famille, nous sommes des amis, c'est une grande famille ici. Ça, en entreprise, ça ne bénéficie qu'à la personne qui dit « nous sommes une famille ». Parce que ça enlève la barrière de la hiérarchie professionnelle. Ça te met dans une position de loyauté envers ta famille. Mais ce n'est pas ta famille. Ce sont des collègues. Vous pouvez bien vous entendre, mais il faut qu'il y ait cette limite-là. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'ai une expérience professionnelle où on essayait de nous obliger à tous déjeuner ensemble à la cantine de... How do you call this place? À la cantine de l'entreprise. Pourtant, on pouvait ne pas le faire. À la cantine de l'entreprise, il fallait payer des sommes exorbitantes pour une nourriture qui n'était pas bonne. J'ai fait ça une fois, puis j'ai dit, mais je ne vais jamais refaire ça. Premièrement, les discussions à table ne sont pas intéressantes. C'est un moment où j'ai besoin de déstresser, c'est ma pause. Deuxièmement, je paye des sommes exorbitantes que je suis obligée de payer pour quelque chose que je ne veux pas manger parce que les dames ont un menu par jour et je dois me conformer à ce qu'elles ont cuisiné ce jour-là par obligation. I was like, no. On me dit, oui, mais c'est une famille ici. J'ai dit, je suis désolée. Dans ma famille, je ne paye pas les repas. Donc, non, je ne le ferai pas. Oui, tu n'es pas une team player. Il est interdit depuis l'interdit. Je dis, mais vous ne voulez pas me dire comment est-ce que j'utilise mon salaire. Parce qu'en plus, le deal, c'était, tu manges là tous les midis à la fin du mois. On te coupe une partie de ton salaire pour payer la cantine. And I was like, no. I'm sorry, but no. I will never do that. We are not a family. Je travaille ici, vous me payez. Vous n'allez pas aussi dicter ce que je mange, où je mange, ce que je paye. Ça ne marche pas comme ça. Ça doit être très, 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 très clair. Le cinquième point, c'est la répétition des comportements de l'ami malgré le fait que Lola lui a dit de nombreuses fois qu'elle voulait que les choses changent. Et elle dit, malgré les conversations répétées, ma patronne continue à m'appeler tôt et à imposer des urgences. Et c'est là qu'on va parler des limites. Et une chose qu'il faut comprendre, ce n'est pas aux gens de respecter vos limites. C'est à vous de les respecter. On pense souvent que le simple fait de dire oui, voici ma limite, c'est assez. Non. La personne a des privilèges dans ta vie, tu veux lui enlever des privilèges, mais ce n'est même pas, c'est pas quelque chose de méchant, c'est vraiment inconscient. Si aujourd'hui on me dit, je ne peux plus sortir de chez moi comme je sors d'habitude, il faut que j'aille faire un grand tour, naturellement je vais continuer de sortir comme je sors généralement parce que cette route-là est ouverte, elle est accessible, ce chemin ouvert, il est accessible. Why would I do what I don't want to do? Pourquoi est-ce que je vais souffrir en fait? Donc, c'est humain de rejeter des informations qui nous retirent nos privilèges. En réalité, le souci, c'est qu'on s'attend à ce que la personne en face, subitement, ait nos intérêts à cœur et change. But it doesn't work that way. Ce n'est pas à la personne de se réveiller un matin et d'avoir tes intérêts à cœur. C'est à toi de les défendre au quotidien. Tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Donc, l'erreur que l'on a fait, c'est dire à la dame, oui, je ne veux plus que les choses se passent comme ça. La dame dit, ok, d'accord, j'ai compris. Mais le lendemain, lui fait un mail à 4 heures du matin avec une urgence. Lola va remplir sa mission en maugréant et en disant, oui, mais je t'avais quand même dit que je ne voulais pas. That one is not important. Parce qu'à la fin de la journée, la personne a eu ce qu'elle voulait. Tu as fait son travail à 6 heures du matin. Donc, quel que soit ce que tu dis, she does not care. Parce qu'à la fin de la journée, tu fais quand même ce qu'elle veut. Poser une limite, ce n'est pas avec les mots, c'est avec les actions. Tu lui dis, le travail commence à 8h30. Donc, from now on, c'est à 8h30 que je commence à travailler. Elle te fait un mail à 6h du matin, tu travailles à 8h30. Il y a forcément un contrat, du moins je l'espère. Il y a un contrat avec les horaires de travail. Tu envoies son mail à... Tu commences le travail à 8h30, donc tu ne peux pas avoir le document fait à 8h30. Tu vas l'envoyer quand tu auras terminé, and then, voilà. Si, malgré ton bavardage, tu continues à te comporter comme elle veut, ton bavardage ne compte pas. Parce qu'à la fin de la journée, elle a ce qu'elle veut obtenir de toi. Donc, pourquoi est-ce qu'elle va se gêner à t'écouter, alors qu'à la fin de la journée, she has what she wants? Donc là, ce n'est pas elle le problème, c'est toi le problème. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent, parce que quand on parle de limites, c'est la personne qui veut poser les limites ou imposer les limites qui est le problème, parce qu'elle ne suit pas elle-même ce qu'elle a dit. Et elle veut que l'autre en face porte toute cette responsabilité-là. Mais tu es responsable de tes limites. Le point suivant, c'est justification de l'abus au nom de la préparation au vrai monde. J'ai adoré. La patronne estime que ses comportements abusifs sont une façon d'aider à affronter le monde professionnel et surtout le monde réel, parce qu'elle dit le vrai monde. Voici ce que j'ai répondu à Lola. Si le vrai monde est un univers où toi tu sauves pour qu'elle puisse avancer sereinement, alors tu es préparé non pas à ton évolution, mais à une vie de servitude pour laquelle tu serais supposée être reconnaissante. That one. I'm not trying to expatiate. Vous avez compris ce que je veux dire par là. Le point suivant, c'est la culpabilité liée à la gratitude. Culpabilité liée à la gratitude. Lola n'ose pas remettre en question la moindre chose que sa patronne fait parce qu'elle est reconnaissante pour l'aide qu'elle lui a apportée. Voici ma réponse. À ce niveau, je te poserai une question à laquelle tu devras répondre et qui définira tes prochaines actions. Pour toi, qu'est-ce que la gratitude? Est-ce que c'est remercier la personne, être reconnaissante ou se mettre à son service jour et nuit pour un merci éternel? Et je vous invite à vous poser cette question, vous aussi. Donc, voici ce que Lola me répond. Elle définit la gratitude comme le non-oubli. Elle explique que dans sa vie, toute aide reçue implique souvent une dette implicite. Dette. Elle dit, la reconnaissance est comme une prison invisible. C'est comme vivre sous hypothèque. Et là, il y a des guillemets. C'est vraiment ce qu'elle a dit. La reconnaissance est comme une prison invisible. C'est comme vivre sous hypothèque. Elle a peur que toute personne bienveillante puisse réclamer un jour une forme de paiement. Elle identifie donc le lien direct entre ce qu'elle a reçu, comment elle est hypothéquée à vie, comment la personne a le droit de réclamer son dû et comment elle a le devoir de remplir toute obligation face à cette personne-là. Avant de continuer, je voudrais vous lire la définition du mot gratitude dans le dictionnaire Larousse. Parce que, on le dit, je suis à cheval sur les mots, mais si on ne sait pas ce que les mots signifient, on fait n'importe quoi, comme c'est le cas pour Lola. Donc, le dictionnaire dit « Reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu. Sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Manifester sa gratitude à quelqu'un. » Il n'y a aucunement là servitude, dette, hypothèque. Non. Sentiment affectueux envers un bienfaiteur. On doit être très clair. La vérité, c'est que si quelqu'un te fait du bien en attendant de toi que tu courbes les chines chaque fois qu'elle passe, en réalité, elle t'achète. Ce n'est pas une bonne action au sens propre. Non. Elle te prépare à devenir sa servante. Donc, à la fin de la journée, est-ce que tu devrais être reconnaissante envers une personne qui veut faire de toi sa serpillière? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas reconnaître le bienfait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être très lucide sur l'intention derrière. That one is important. Si quelqu'un mène une bonne action envers toi, c'est toi qui définis la dette que tu as envers cette personne. Et cette dette est définie selon ton sens de la morale, ton sens de l'éthique et tes possibilités. Il n'est pas question pour toi de mettre ta vie entre parenthèses ou de l'offrir sur un plateau d'argent à la personne parce qu'elle t'a aidé quand tu es dans les difficultés. L'amitié, c'est quoi? L'amitié, c'est le soutien. Si elle est ton amie, elle te soutient en attendant de toi en retour que le soutien quand elle aussi, elle est dans une situation difficile. Elle n'attend pas de toi que tu te réveilles à 4h du matin pour faire un travail qu'elle devrait faire, mais qu'elle ne fait pas. Elle dort. Et toi, tu dois le faire parce qu'elle te prépare au vrai monde. En tant que qui? Ce qui m'amène au point suivant, la confusion entre l'aide et l'éducation. La patronne semble vouloir éduquer Lola selon ses principes et ses convictions à elle. Et voici ma réponse pour cette partie. T'éduquer, parce que c'est le mot que Lola a utilisé. T'éduquer. Le choix de mot est très intéressant. La question que je poserais, c'est est-ce son rôle? Dans ta réalité, qui est à la charge de ton éducation? Des gens envers qui tu es reconnaissante ou ta famille et toi-même? Et pour aller plus loin, es-tu à un âge où tu as besoin d'être éduqué? Dans son éclaircissement, Lola dit qu'elle n'a pas été très encadrée par sa famille. Elle a été limite mise de côté, ce qui a créé un grand manque affectif qu'elle a essayé de combler. En réalité, cette amie est devenue sa figure parentale parce qu'elle était là pour l'aider. Donc, elle est devenue comme une maman qui lui tend la main, qui est toujours là pour elle. Sauf que l'amie, comme on dit souvent, les personnes profiteuses ressentent ou alors arrivent à détecter tes points faibles et joue dessus. Ce n'est pas quelque chose de forcément conscient ou de planifié. C'est une question de caractère. Cette jeune dame, si tu te demandes si elle est une profiteuse, elle te dira non. Elle te dira qu'elle est gentille. Elle te dira qu'elle aide. Elle te dira qu'elle a vu Lola en difficulté. Elle lui a tendu la main. Elle n'est pas quelqu'un de mauvais. Donc, ce n'est pas conscient. Ce n'est pas parce qu'elle a conscience d'être une mauvaise personne qu'elle le fait. C'est juste son mécanisme de fonctionnement. Elle va rechercher des personnes qui ont un manque qu'elle va combler. Et comme elle sait que c'est un manque profond qui va créer une gratitude démesurée, elle va surfer dessus en te rappelant tous les jours que sans elle, tu n'as personne. Si elle n'était pas là, tu ne serais pas où tu es aujourd'hui. Si elle n'est pas là, tu ne pourras plus aller nulle part. Donc, tu ferais mieux de courber la tête, de courber les chines et de faire ce que tu te demandes de faire. Et c'est pour ça que Lola est dans cette situation-là. Parce qu'elle a un grand manque affectif, manque de parents, maman, papa, famille dans le sens large. Elle a, dès un âge très jeune, elle a cherché qui pouvait la guider, comme nos parents nous encadrent. Et cette amie a occupé cette place-là. Ce qui fait qu'elle a évolué avec cette amie-là. Et aujourd'hui, elle n'arrive pas à détacher l'autorité de cette personne d'elle. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à récupérer, à reprendre l'autorité qu'elle a donnée à cette personne sur elle. C'est la même chose qu'on a du mal à se détacher des parents téléguide, je veux dire ça comme ça, pour qu'on vive selon leur bon vouloir. Ça arrive très souvent, on en parle souvent ici. Donc, en vérité, Lola bataille contre son amie, mais elle bataille aussi contre une figure maternelle, ce qui rend les choses très compliquées. Et l'amie, consciemment ou inconsciemment, l'a compris et joue dessus au quotidien. Ce qui nous amène vers le neuvième point, qui est le pouvoir que l'amie a sur Lola par rapport à toutes les informations qu'elle a sur elle. Lola s'est confiée à son amie, à sa figure maternelle. Et cette amie-là joue de ces informations pour la servir encore plus, pour l'anéantir, parce qu'elle sait ce qu'il faut lui dire pour lui faire mal. Elle sait ce qu'il faut lui dire pour la faire plier. Elle sait ce qu'il faut lui dire pour qu'elle ne s'éloigne pas. C'est-à-dire qu'elle sait comment activer le « sans moi, tu n'es rien », même si elle ne le dit pas en ces mots-là. Et leur relation, c'est vraiment ça. Sans moi, tu n'es rien. Je te montre la vie. Je t'apprends à vivre. Je te montre le vrai monde. Sans moi, tu ne pourras pas affronter l'extérieur. Je te protège en te faisant ça. C'est-à-dire, à la fin du mail de Lola, elle dit bien, ce n'est pas une mauvaise personne. Elle le fait pour mon bien. Et c'est ça qu'on appelle toxicité. Parce que souvent, quand on dit relation toxique, c'est ça en fait. Tu es dans une relation où tu n'as absolument aucun avantage, tu n'as que des devoirs, tu n'as aucun droit, mais on t'a convaincu d'une manière ou d'une autre que c'est pour ton bien. Et tu as l'impression que te rebeller serait te faire du mal à toi. Pas faire du mal à l'autre, hein. Tu perds quelque chose toi en quittant la personne, quelle que soit la personne. And this is exactly where she is. Le dernier point, c'est la peur que Lola a de perdre la relation si elle impose vraiment ses limites. Ma réponse à ça a été la suivante. Tant que tu ne seras pas en paix avec le fait que cette relation peut se briser si les choses changent, tu ne feras rien changer. La personne en face peut décider que la nouvelle donne ne l'arrange pas, tout comme tu as décidé toi que l'ancienne donne ne t'arrange pas. C'est son droit le plus absolu. Qu'est-ce qui est plus important? Cette relation dans sa forme actuelle ou comment tu veux vivre ta vie? L'autorité. L'autorité a une grande place dans les relations toxiques. Qui a autorité sur toi? C'est la question qu'il faut toujours te poser. Lola n'est plus à un âge, bien qu'elle soit encore jeune, et ça, c'est même pas seulement une question d'âge, parce que parfois ça arrive aux gens qui ont plus de 40 ans, plus de 50 ans. Elle est adulte et elle doit accepter sa position d'adulte. Être adulte, ça veut dire prendre ses décisions soi-même, faire face aux conséquences et les assumer. Généralement, c'est plus facile de reposer sur la personne toxique qui prend des décisions parce que si les choses se passent mal, on a quand même la possibilité de se dire, ce n'était pas ma faute. Maintenant que tout est gâché, elle continue son travail en se débrouillant pour réparer. Tu offres l'autorité sur toi à quelqu'un d'autre. Ce qui toi aussi t'arrange, parce que si les choses se passent mal, ce n'est pas ta faute, c'est la faute de l'autre. Et c'est une boucle sans fin. Les choses se passeront, quand ça se passe bien, c'est grâce à elle. Donc je dois continuer d'être sous sa coupe parce que grâce à elle, j'ai eu ceci. Quand ça se passe mal, c'est à cause d'elle. Elle va réparer, donc je vais rester là jusqu'à ce qu'elle répare. Tu ne peux pas t'en aller tant que tu ne décides pas d'assumer le poids de la décision. Et la première décision, c'est de t'en aller. Ma sœur, ma grande sœur, s'il y a une chose que j'ai apprise d'elle, une chose importante d'ailleurs, c'est assumer tout quand on prend une décision, le bon comme le mauvais. Le souci souvent, c'est qu'on veut que les décisions ne viennent qu'avec du bon. Ce n'est pas possible. Tu peux décider de manger une glace. Ça vient avec du bon, le goût de la glace et tout ce que tu veux, mais ça vient aussi avec du mauvais. Beaucoup de sucre. Si tu étais on a diet, c'est mort. So, you need to learn how to accept le bon et le mauvais parce que tu es une adulte. Tu dois reprendre autorité sur toi. Cette amie-là, en fait, son vrai pouvoir, c'est l'autorité qu'elle a sur toi. Ça fait peur, c'est normal. Et ça, c'est une chose dont il faut qu'on parle. Quand on parle de poser des limites, quand on parle de sortir d'une relation toxique, ce qui bloque souvent, c'est que la plupart des gens ont la certitude que ceux ou celles qui y sont arrivés l'ont fait sans sentir de peur, sans sentir de culpabilité. Donc, elles attendent le moment où elles aussi, elles n'auront plus peur, elles ne se sentiront plus coupables pour pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que la peur et la culpabilité sont présentées comme des sentiments négatifs. Un sentiment n'est ni négatif ni positif. Sentiment comme ressenti. Ni négatif ni positif. Ça a un seul rôle, un rôle d'information. Tu as peur parce que tu vas faire quelque chose d'énorme qui aura de grosses retombées. Tu culpabilises parce que tu sais que la personne en face ne sera pas contente. That's the information you need. That's all. Oh, c'est négatif. Quand tu dis c'est négatif, tu vas faire tout ce qu'il faut pour rendre la chose positive. Mais tu ne peux pas rendre ça positif. Le seul moyen pour toi de rendre ça positif, c'est de ne pas le faire. C'est de ne pas sauter le pas. Et c'est pour ça que la plupart des gens restent dans des situations impensables. Parce qu'elles se disent que celles qui ont réussi, c'est parce qu'elles sont trop fortes. Elles ont réussi à éteindre la peur, à éteindre ci, à éteindre ça. Non. Elles y sont arrivées malgré tout ça. Et c'est sans réalité avoir autorité sur soi-même. Quel que soit ce que ça te fait ressentir, si ce que tu dois faire est bon pour toi, tu le fais, quelles que soient les conséquences. Parce que tu es adulte et tu assumes. No one will do that for you. Quand on parle de travail sur soi, d'affirmation de soi, ce n'est pas un travail facile. Ça vient avec énormément de larmes, avec énormément de douleurs, avec énormément de frayeurs. Je ne sais pas qui vous a dit que ça va bien se passer, ce sera simple, ce sera joli, tu vas te réveiller avec les étoiles dans les yeux tous les matins. Non, tu vas pleurer. Tu vas pleurer, mais énormément. But this is what it is. Sans ces pleurs-là, tu n'atteindras jamais ton but. Je ne suis pas en train de dire que la vie n'est que difficulté. Je suis en train de te dire que tu vas traverser ces difficultés-là pour un lendemain meilleur pour toi-même. Je pense que j'ai fait le tour sur cette question. Je reste disponible pour t'accompagner si, comme Lola, tu fais face à ce type de problème. Si tu veux qu'on travaille ensemble, écris-moi à l'adresse c.bifoun@gmail.com avec objet du mail « Je veux qu'on travaille ensemble ». Tout simplement. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Commente, dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode-ci. Pose des questions si tu en as. Like la vidéo et surtout abonne-toi parce que ça me donne de la force. Ça me permet de savoir que tu es là. Sur ce, people, bye.